tâchez d'y voir clair. Il se trouve que nos lectures, spécialement notre péricope évangélique de ce quatrième dimanche de carême, tombent en des journées électorales, tombent aussi au milieu d'une actualité confuse, incertaine, préoccupante, où il n'est ni inutile ni aisé de voir clair. Dans le long épisode joannique de la guérison de l'aveugle-né, tous les acteurs que nous rencontrons s'efforcent d'y voir clair. Les disciples de Jésus, pour qui la longue pédagogie divine depuis le début de la révélation au sujet de la causalité du bien et du mal dans l'homme et dans le monde n'a visiblement pas encore produit tous ses fruits, et qui s'interroge sur l'imputation des péchés personnels d'un homme aveugle de naissance ou de ses proches dans son infirmité. Les pharisiens, décontenancés comme tous, par cette libération de la cécité, divisés entre eux sur la possibilité qu'un tel miracle vienne de Dieu, et en peine, eux aussi, avec l'œuvre de Dieu. Les parents du mendiant aveugle guéri, qui, eux, ne veulent même pas savoir et n'aspirent qu'au confort de la pénombre. Puis, l'homme aveugle, lui, sans le dire, veut tout simplement voir depuis sa ténèbre. Une ténèbre qui le diminue, le relègue, l'emprisonne. Et brusquement, une voix, à la fois inconnue, mais encourageante, magistrale, sans être impérieuse, une insolite et peu ragoûtante application de boue, une marche maladroite, pavée de doutes et d'attentes vers le bassin familier. Et voici la lumière, et toute chose qui se présente à voir de manière nouvelle. Des récits de guérison d'aveugles se retrouvent dans tous les évangiles, avec des points de contact suffisamment nombreux et précis pour attirer notre attention et nous donner à comprendre l'importance de l'enseignement du Christ, enseignement intégral ici par les paroles et les gestes, des signes pour une manifestation, et comme toujours, là où il est en quelque sorte le plus impliqué, là nous le sommes et nous devons l'être. Cette ténèbre, nous la reconnaissons sans peine, comme l'obscurité native de la créature humaine, empêchée par sa limite naturelle et par le péché des origines qui marque sa condition. Cette double obscurité de l'ignorance et du péché dont parle saint Thomas d'Aquin dans sa prière devenue célèbre pour accompagner l'étude. C'est aussi la ténèbre des origines. C'est également la ténèbre qui drape la gloire lumineuse de Dieu, au désert, au Sinaï, dans les visions des prophètes. La libération de cet homme, ici et délibérément sans nom, n'est donc d'évidence pas une guérison. C'est une illumination, en même temps qu'un relèvement et une pleine entrée dans la communion des vivants. De sorte que l'Église a donné à notre péricope sa juste place dans le parcours initiatique des catéchumènes. Désormais, notre homme voit, mais tout le monde voit parmi les personnages du récit. La question n'est pas de voir, la question est de voir clair. Et que voit-il ? Les disciples, ceux à qui sont révélés les mystères du royaume, sont éclairés par l'enseignement du Christ, et particulièrement sur l'incompréhensible, avec la délicatesse divine qui lève tout scandale pouvant les faire trébucher. Ils peuvent désormais voir clair sur le sens de cette infirmité, de sa guérison, sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, sur le dessein de Dieu qui s'accomplit par lui et en lui. Leurs yeux n'étaient pas empêchés, mais par ses yeux, dans la lumière de Dieu, c'est leur intelligence qui voit. Les parents de l'ancien aveugle, eux, voient le fond de leur assiette, qu'ils ont souci de ne surtout pas quitter des yeux, pour une tranquillité convenable et convenue. Et ils semblent assumer et même désirer cette double myopie. Sans parler des voisins qui, eux, n'en croient pas leurs yeux. Les pharisiens, pour leur part, semblent pris dans une spirale d'aveuglement. Indirectement, par le double dialogue avec l'homme relevé, se poursuit la controverse aiguë du chapitre précédant notre texte, celle sur l'œuvre de Dieu en son Fils venu dans le monde, le manifester, le servir, le glorifier en ses œuvres. Jésus vient de se désigner explicitement, consiste la glorification du Père et la filiation de Dieu, alors qu'il avait tout juste sauvé la femme adultère, et il vient tout juste d'échapper à une lapidation. Or, l'œuvre de Dieu, elle est sous les yeux des pharisiens, et ils butent, ils tournent en rond, aux limites de la contre-expertise médicale et du contrôle administratif, sans pouvoir reconnaître le Messie promis. Ils vont jusqu'à un degré d'aveuglement que le quatrième évangile prend souvent soin de dramatiser dans les controverses avec les Juifs et jusqu'aux échanges des Juifs avec Pilate. Ici, c'est Moïse qui est à nouveau convoqué, comme pour souligner leur empêchement à voir celui que Moïse, précisément, annonçait en prophétisant et en accomplissant le premier les œuvres de Dieu comme signe de sa gloire. Et en dépit de ce qui devient l'évidence, le nom de cette piscine où se laver, l'évocation dans la boue de l'acte créateur de l'homme par la bouche du Verbe, la puissance qui opère sur un aveugle de naissance, tout désigne comme Dieu ce Jésus qui sort du temple, qui passe devant le mendiant atteint de cécité. Eux, les pharisiens, ont reçu la lumière de la révélation et ils s'en détournent, de sorte qu'ils deviennent les plus condamnables de tous nos acteurs du jour. Ayant vu les œuvres annoncées de l'amour, de la vérité, de la vie, et les rejetant, finissant par choisir la ténèbre, non par peur, mais par orgueil et appétit de puissance. Et puis notre homme, celui qui avait la place la moins enviable dans notre histoire, et que pourtant au milieu de cette galerie nous souhaitons et nous devons être. Si ses yeux fonctionnent enfin en s'ouvrant à la lumière naturelle, c'est la lumière de la foi qu'il reçoit. Grâce à lui, grâce à cet homme sans nom, chaque année, grâce à nos frères et sœurs catéchumènes, nous pouvons revivre de manière merveilleuse et bouleversante le parcours de la foi. Car l'illumination de ce frère, de ses frères, notre illumination n'est pas une téléportation vers une évidence pleinement saisie. Une porte s'ouvre, et par cette porte, un chemin. Lui, notre homme, a certes de rudes catéchistes, et pourtant il avance. De son « je ne sais pas », il passe au prophète, à l'homme de Dieu, dont il témoigne courageusement des œuvres pour lui et en lui. Or, il va voir clair. Il va voir clair dans l'acte de ce qui nous est indéniablement désigné comme une liturgie baptismale, un bain d'eau à la piscine de l'envoyé qui lave et vivifie, ce verbe « ouvrir les yeux » d'un emploi unique, mais qui est ici répété 7 fois dans la version de notre péricope. Il voit par la lumière qui est donnée par celui qui est lumière. Il le connaît par la rencontre où il se révèle enfin personnellement. Il reconnaît enfin celui qu'il était empêché de voir, alors que tout en lui était disposé à la lumière de l'intelligence. Il reconnaît celui qui est amour et que son amour attendait, cherchait, pressentait. Alors éclate sa profession de foi et la louange qui l'accompagne. Un point, peut-être, n'est pas encore clair. Illuminé, il est devenu fils, mais aussi porteur de la lumière, pour des œuvres de lumière et un témoignage de la lumière, comme et avec le Christ, en son nom. Maintenant, la lumière du Christ dans le monde, ce sont celles et ceux qui font corps avec lui en son Église, et ils en sont les gardiens et les relais. L'Esprit de Dieu, qui est Dieu, les éclaire et les y assiste selon le Christ, pour que l'œuvre d'amour du Père soit manifeste. Voilà qui est clair.